Bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette introduction. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, donc merci pour cette invitation. Comme cela a été dit, je suis un économiste, nul n'est parfait, et à ma décharge, je vais vous parler de géographie. Donc, vous voyez que je suis déjà beaucoup plus présentable. Ne vous réjouissez pas trop, je vais parler de géographie à la façon d'un économiste. Donc, s'il y a des géographes dans la salle ou des personnes qui s'intéressent de près à la géographie, ils vont trouver que ma vision de la géographie est simplificatrice, mais c'est la façon dont on voit les choses, nous, économistes, en particulier sur ce sujet. Néanmoins, vous aurez des cartes, ce qui montre bien que je parle de géographie d'une certaine façon. C'est en tout cas la faiblesse de le penser. Voilà. Alors, ça a été dit, le sujet de ce soir, c'est ces accords commerciaux régionaux. On va voir ce que veut dire régional. C'est en réalité une définition assez large. À partir du moment où l'accord que vous signez avec d'autres pays sur le commerce de biens, de services, etc., ne relève pas des règles générales multilatérales, donc des règles de l'Organisation mondiale du commerce, dès lors que ça déroge, qu'on signe dans un périmètre plus petit, on appelle ça des accords régionaux, puisque ces accords ont historiquement été signés entre des pays qui appartenaient à la même région, mais ça n'est plus forcément le cas aujourd'hui, comme on va le voir. Donc c'est cette logique qu'on va essayer de comprendre. Et donc, le point de départ du raisonnement, c'est que ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'une situation dans laquelle s'entremêlent en fait des déterminants de différentes natures. Vous avez bien sûr des raisons géographiques pour signer, parce qu'on va en parler, c'est plus facile, plus naturel d'échanger avec les pays voisins. Pourquoi l'Allemagne et la France sont deux pays qui échangent beaucoup entre eux? C'est d'abord parce que l'Allemagne et la France ont toutes les raisons d'échanger entre eux. Ces deux pays ont une frontière commune et beaucoup de complémentarité. Nous reviendrons sur ces sujets. Donc la géographie compte. Et ce qui compte dans la géographie, c'est ce que nous appelons d'une façon assez générale les coûts au commerce. Et les coûts au commerce, c'est quoi? C'est tout simplement, si vous produisez un bien en Allemagne, il faut le mettre dans un train ou sur un camion et le transporter jusqu'en France, jusqu'en Italie. Et donc le coût de transport, d'assurance, c'est ce que je vais appeler d'une façon générale le coût au commerce. Et vous voyez dans cet exemple tout de suite où je veux en venir, il s'agit de coûts de transport, de coûts d'assurance, mais le produit, le camion, je ne peux même pas dire passe la frontière puisqu'il n'y a plus de frontière. Donc passe de la ville allemande à la ville française. Il n'est pas arrêté à la frontière et il ne paye pas de droits de douane. Et tout ça, c'est le résultat d'une évolution très très longue. Je suis sûr que la plupart d'entre vous dans la salle se rappellent de l'époque où, dans sa petite voiture, on s'arrêtait à la douane en Europe quand on allait en Espagne, etc. Voilà. Et donc tout ça n'existe plus en Europe, donc on est dans un grand marché commun, on va en reparler, un marché unique. Donc on a changé la géographie des coûts au commerce en Europe. Le deuxième point, c'est que les pays échangent entre eux beaucoup et essayent du coup de limiter les coûts au commerce quand leur réalité économique les pousse à échanger beaucoup. Pourquoi la France et l'Allemagne échangent beaucoup entre elles? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une complémentarité en termes d'industrie, en termes de services, en termes de technologie, très, très grande entre ces deux pays. Les Français veulent tous acheter des voitures allemandes et les Allemands veulent tous acheter des voitures françaises. Pas tous, mais une partie d'entre eux, en tout cas. Donc, on a cette nécessité pour les deux pays d'être intégrés, puisque, en réalité, ça correspond aux souhaits des entreprises, aux souhaits des consommateurs. Et puis, dernier point, il y a la politique. Et donc, je suis un économiste qui va vous parler de politique, au sens de politique étrangère, de géopolitique. Et quand on parle de l'Europe, je n'insisterai pas trop là-dessus, mais il est évident que le seul élément de politique étrangère dont dispose la Commission européenne, c'est la politique commerciale. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'armée, n'y a pas de politique étrangère, à proprement parler, de l'Europe. Et donc, quand eh bien, les représentants européens veulent aller dans une certaine direction de collaboration, de coopération avec un pays, la chose la plus facile à faire, au fond, c'est de faire un accord de libre-échange. Voilà, donc ça, c'est le contexte. Et les derniers éléments en date, vous les avez en tête, c'est l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne, le fameux TTIP au sens donc anglais du terme, qui a été appelé TAFTA aussi. Donc TTIP, c'est les gens qui sont pour, TAFTA, c'est les gens qui sont contre. Mais en fait, ils parlent du même accord. Et en fait, ils ne parlent de rien du tout puisqu'il n'y a pas d'accord. Donc ça, c'est un sujet qui est rangé pour l'instant. Vous voyez que ce sujet revient dans la discussion, puisque Jean-Claude Juncker et Trump ont discuté entre eux de la possibilité de négocier des choses sur un certain nombre de secteurs industriels, mais pas l'automobile. Vous avez lu ça dans le journal. Donc, chasser l'accord par la porte, il revient par la fenêtre. Hein. Et puis, celui qui est vraiment signé et celui qui est déjà mis en œuvre de façon provisoire, mais incomplète, c'est l'accord avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, qui s'appelle le CETA, et qui, pour des raisons dont on pourra discuter dans le jeu de questions-réponses, est un accord qui doit passer devant chacun des parlements européens, est endossé par chacun des parlements européens. Donc ça va être très long, très compliqué. Il y a déjà un certain nombre de pays européens qui ont signé, qui sont passés devant leur parlement, qui l'ont ratifié. La France n'a pas encore soumis cet accord au processus de ratification. Mais à un moment, on va discuter publiquement de la question de la ratification du CETA par la France. Alors, de quoi parle-t-on maintenant de façon un petit peu plus précise ? Eh bien, comme je l'ai dit, on s'éloigne avec les accords régionaux des règles habituelles. Donc, les règles habituelles, c'est quoi ? Le premier acronyme qu'il faut connaître, c'est le GATT. Donc le GATT, c'est l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui a été signé après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc qui a été signé à l'époque par un tout petit nombre de pays. On n'était pas dans quelque chose qui était très très important comme aujourd'hui le nombre de pays à l'OMC. À l'époque, donc, on a signé entre un petit nombre de pays et l'idée, c'était d'abaisser les barrières douanières et aussi, et c'est très important, de créer des règles pour que le commerce international fonctionne sur la base de règles et pas sur la base d'une logique de rapport de force. Donc le GATT et aujourd'hui l'OMC, ce n'est pas uniquement la baisse des droits de douane, comme certains voudraient le faire croire, c'est d'abord un corpus juridique et donc des moyens de faire respecter ce corpus juridique. Donc à l'époque, nos amis américains n'avaient pas voulu d'organisation internationale du commerce, parce qu'il y avait une clause sociale qui était attachée au projet. Et donc, cette organisation n'a pas vu le jour. Le GATT est resté un secrétariat pendant très longtemps. Et c'est devenu plus récemment cette fameuse organisation mondiale du commerce, très décriée par beaucoup d'ONG et par beaucoup d'altermondialistes, alors que c'est la seule organisation internationale dans laquelle chaque pays est représenté et chaque pays a une voix. Donc, si le Venezuela veut s'en prendre aux États-Unis, le meilleur endroit pour le faire, c'est à l'OMC, parce que sinon, ça peut être compliqué. Et le Venezuela l'avait fait et avait d'ailleurs gagné contre les États-Unis. Ça avait profondément irrité nos amis américains qui avaient mis donc une taxe discriminatoire ou une réglementation discriminatoire, en tout cas, sur l'essence. Et donc, qui était discriminatoire par rapport au Venezuela. Ils avaient porté ça devant un panel à l'OMC et ils avaient gagné contre les États-Unis, ce qui, évidemment, pour le Venezuela, indépendamment des gouvernements, était une grande victoire. Donc, ça, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Et je viens de parler de discrimination. Eh bien, son principe, c'est ça. Rien ne peut être discriminant dans les politiques que vous adoptez. Vous ne pouvez pas discriminer contre d'autres membres de cette même organisation. Et il y a même une clause qui est très particulière, qui porte cet acronyme de NPF, pour clause de la nation la plus favorisée, et qui veut dire quoi ? Eh bien, qui veut dire que j'accorde une réduction de droits de douane à Jean-Marc Bonisseau, eh bien, dans une négociation que nous aurions tous les deux, eh bien, je dois accorder la même réduction de droits de douane à l'ensemble des membres de l'OMC qui sont dans cette salle. C'est ça la clause de la nation la plus favorisée. Et donc, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Et c'est ça qui s'est passé après-guerre. Jean-Marc Bonisseau veut bénéficier de mon business et donc il va avoir des intérêts offensifs. Moi, je veux rentrer sur son marché, donc j'ai aussi des intérêts offensifs. Et pour pouvoir accéder au marché de Jean-Marc, eh bien, je lui concède donc un accès à mon propre marché. Et donc, Pascal Lamy avait cette formule tout à fait juste, qui était de dire la beauté donc de ces négociations, c'est que chaque ministre peut descendre de l'avion en disant ce qu'il a obtenu. Évidemment, il ne descend pas de l'avion en disant ce qu'il a concédé, il descend de l'avion sur la passerelle en disant ce qu'il a obtenu sous l'acclamation du peuple. Et donc, le point important, c'est que chaque binôme dans la salle ou dans les membres de l'OMC fait la même chose, mais chaque binôme doit accorder à l'ensemble des autres membres ce qu'il a accordé à son binôme. Donc c'est ça la clause de la nation la plus favorisée, c'est un coup de génie des juristes après-guerre et c'est ça qui a permis d'avancer très très vite dans l'organisation du commerce international. Ça vaut pour les droits de douane, mais ça vaut aussi pour toutes les règles qui sont mises en place. Alors, comme rien n'est jamais simple en droit, en économie tout est simple, mais chez les juristes rien n'est jamais simple, il fallait évidemment prévoir une exception à cette règle et cette exception c'est qu'on peut discriminer si les préférences réciproques que nous nous accordons avec Jean-Marc couvrent une part prépondérante de notre commerce. Donc prépondérant, ce n'est pas une notion d'économiste, c'est une notion de juriste. Et donc, ça laisse libre cours à l'interprétation. C'est un certain pourcentage, on va dire. Voilà, un certain pourcentage plutôt grand de notre commerce. Et à ce moment-là, si on s'entend là-dessus, on peut le faire tous les deux sans nous occuper des autres membres de l'OMC ou les autres membres du GATT. Ben, c'est ça qu'on appelle le régionalisme, en fait. C'est cette autorisation que nous avons de discriminer, de nous accorder des bénéfices que nous n'accorderions pas aux autres. Voilà. Alors, ça, c'est le cas le plus général et le plus simple. Il y a tout un ensemble de situations qui sont des entre-deux dont je ne parlerai pas ce soir. La première, c'est ce qu'on appelle les préférences unilatérales conditionnelles. C'est le système de préférences généralisées, situation dans laquelle on va considérer, par exemple, que tel pays est un pays en voie de développement très pauvre, un pays moins avancé, et donc on va lui accorder libre accès à notre marché sans contrepartie. Mais c'est conditionnel à un certain nombre de choses. L'exemple typique de ça, c'est le système que nous appelons « tout sauf les armes en Europe », qui consiste à dire que la liste des PMA, ils sont une cinquantaine de pays, la liste des PMA peuvent exporter avec zéro droit de douane, zéro quota, tout ce qu'ils veulent sur le marché européen, sauf les armes. En réalité, ce ne sont pas les PMA, bien sûr, qui exportent les armes, c'est les pays riches en général. Mais pour le marketing de l'opération, c'était beaucoup mieux de le dire comme ça. Donc c'est l'accord tout sauf les armes. Donc ça, c'est le système de préférence généralisée. On a aussi du SPG+, si vous réduisez le trafic de drogue. Enfin, il y a tout un ensemble de critères comme ça. Donc ça, c'est conditionnel. Ensuite, il y a le plurilatéralisme, qui est encore un animal un petit peu différent, dans lequel on s'accorde dans un sous-ensemble. Par exemple, je vais signer un accord plurilatéral uniquement avec la partie gauche ici de cette salle, parce que nous avons des intérêts en commun. Et par exemple, sur les marchés publics, nous allons nous entendre pour faire de la transparence, etc., mais juste entre nous, et mettre des règles, mais juste entre nous. Ou sur les aéronefs, c'est-à-dire les avions, nous allons nous entendre juste entre nous. Et puis, nous excluons tous les autres de cet accord. Donc, ça n'est pas discriminant, c'est juste un accord que nous avons signé, nous. Donc, ça, c'est le plurilatéralisme. Le bilatéralisme, c'est très mal. C'est quand, au lieu de m'entendre avec Jean-Marc Bonisseau, j'essaye de l'impressionner. Donc, je le menace et je prends des sanctions. Et comme je prends des sanctions contre lui, eh bien, lui, il fait de la rétorsion. Donc, il prend des sanctions en retour contre moi. Et donc, nous nous appauvrissons tous les deux dans une guerre commerciale. Toute ressemblance avec les États-Unis et la Chine, évidemment, serait fortuite. Et puis, il y a l'unilatéralisme qui, là, consiste à dire « Je ne veux plus que ce genre de choses se passe. Je n'aime pas les voitures allemandes. Et donc, à ce moment-là, c'est des sanctions, c'est une guerre commerciale dirigée contre un pays, sans beaucoup plus de raisons que ça. Et ça, nous avons un grand pays ami qui s'entend beaucoup à faire ce genre de choses en ce moment. Donc tout ça, je n'en parlerai pas parce que la soirée n'y suffirait pas. Je vais parler simplement des exceptions au multilatéralisme qui correspondent à cette possibilité que nous avons à nous entendre pour une part prépondérante, pour libéraliser une part prépondérante de notre commerce. Voilà. Alors ça, c'est une carte. J'ai promis qu'il y aurait des cartes. Donc celle-ci, ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est une carte que j'ai prise sur le site de l'OMC qui marque avec des couleurs de plus en plus foncées l'intensité de l'engagement de chacun des pays du monde dans ces accords régionaux. Donc si vous êtes blanc, c'est que vous n'avez signé avec personne. Et puis plus ça devient rouge foncé et plus vous avez signé avec beaucoup de pays. D'accord ? Donc ce que l'on voit, c'est que les Européens sont très forts. Ce que l'on voit, c'est qu'en Amérique latine, eh bien, il y a une partie qui a signé beaucoup et une partie qui a moins signé. Et ce que vous voyez sur cette carte, et les explications viendront plus tard, c'est qu'il y a des pays qui sont enclavés, qui ne signent avec personne. Et pourquoi ils ne signent avec personne ? Parce que de toute façon, pour eux, c'est difficile de faire du commerce. Donc il y a moins d'attrait à signer à partir du moment où, de toute façon, vous ne commercerez pas beaucoup avec d'autres pays. Vous voyez que la Mongolie avec le Pérou, par exemple, ça va être compliqué. Ce n'est pas la peine de signer un accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier endroit où la géographie entre en ligne de compte. Alors, quelles sont les formes de cet accord que l'on peut signer à deux pays ? Ça peut être un accord de libre-échange. Donc là, on supprime les droits de douane, simplement, entre nous. Ce que dit la règle des juristes, c'est qu'il faut signer, il faut enlever une partie significative des droits de douane. Mais bon, disons pour faire simple qu'on supprime les droits de douane. Le deuxième niveau, c'est l'union douanière, dans laquelle on a un tarif extérieur commun. Le troisième niveau, c'est un marché commun. Le quatrième niveau, c'est l'union économique. Alors, dans tous les cas, on va considérer que les droits de douane sont supprimés. Pour comprendre ce dont on parle, si je prends l'accord CETA, donc l'accord entre l'Union européenne et le Canada. CETA, c'est l'acronyme anglais. Il doit y avoir un acronyme français, mais je n'ai jamais réussi à l'apprendre. Donc, si on prend cet accord entre l'Europe et le CETA, ma question est-ce que c'est une union douanière ? Et donc là, tout le monde a déjà compris que non, puisque l'Europe et le Canada n'ont pas un tarif extérieur commun. Qu'est-ce que c'est que le tarif extérieur commun ? C'est juste la liste des droits de douane qui nous dit que sur une automobile, c'est 15%, sur du blé, c'est 2%, etc. Donc ces droits de douane, cette liste de droits de douane, il y a 10 000 produits à peu près comme ça. Donc sur chacun des 10 000 produits, on a un droit de douane en Europe qui est défini par un règlement européen. Et quand on a signé avec le Canada, eh bien on a supprimé nos droits de douane vis-à-vis du Canada. Le Canada a supprimé ses droits de douane vis-à-vis de nous, mais nous n'avons pas harmonisé notre tarif. Donc la liste des produits avec les droits de douane n'est pas la même des deux côtés. Donc les Canadiens n'opposent pas les mêmes droits de douane sur les voitures que sur les Européens. Donc ça n'est pas une union douanière. Voilà. On va traiter tout ça de la même façon et on va dire entre nous, parce que la soirée est courte, que ce sont des accords régionaux. Et donc, on va traiter les choses de façon bilatérale. On va regarder par exemple la France et l'Allemagne, j'en ai déjà parlé. Eh bien, on va dire que les droits de douane entre la France et l'Allemagne, c'est zéro. Entre la France et l'Italie, c'est zéro, etc. Et on va utiliser cette règle de façon systématique. Ça va aller assez vite. Il y a 200 pays dans le monde, donc 200 x 200, ça fait 40 000. Il ne faut pas faire tout à fait 200 x 200, parce qu'on ne peut pas signer avec soi-même. Donc, il faut faire 200 par 199. Je vois déjà Jean-Marc qui me regarde avec un air sévère. Donc, il faut faire 200 x 199 divisé par 2. Donc, ça fait quand même un grand nombre de paires à regarder. Voilà. Alors, maintenant, regardons le nombre de nouveaux accords qui sont signés chaque année au cours du temps. Donc, c'est ce que vous voyez ici. On commence après-guerre, on voit le petit pic là, des années, début des années 60, donc ça c'est la mise en place de l'Europe, etc. Puis ensuite c'est encéphalogramme plat, et donc ensuite on a jusqu'aux années 1990 un nombre d'accords très limité qui est signé dans le monde chaque année. Vous voyez qu'on tourne autour de 2-3 accords. Donc, quand un accord est signé dans le monde, dans ces années-là, c'est un véritable événement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, à partir de 1990, à peu près, cette augmentation, on arrive à une situation où, autour des années 2000, on signe au moins 5 à 10 accords chaque année dans le monde. Et si on va encore plus loin dans le temps, on est dans une situation où on signe entre 10, 15, quelquefois même plus que 15 accords chaque année. Donc, il y a eu une accélération très, très forte de ce phénomène dit de régionalisme, au sens où les paires de pays signent entre elles. Et il va falloir essayer de comprendre pourquoi ça s'est produit maintenant et pas avant. Les règles dont on parle, les exceptions dont on parle, elles existent depuis la mise en place du GATT et de tout ça. Donc, ça date de l'après-guerre. Donc, depuis la mise en place des institutions, c'était possible de le faire. Et pourtant, on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait jusqu'aux années 90, ou très peu fait jusqu'aux années 90. Il y avait quelques cas très connus. Il y avait l'Europe, le Mercosur, etc., etc. Mais ça a vraiment décollé ensuite. Donc, il a dû se passer quelque chose dans cette période qu'on aimerait bien comprendre, qui a fait qu'à partir de là, tout a été différent. Donc, mon point, c'est que la géographie n'est pas quelque chose de statique. La géographie, du point de vue des économistes, c'est quelque chose de dynamique. Et on va tracer des cartes tout à l'heure qui vont pas bouger, mais qui vont être différentes d'une période à l'autre. Et on va essayer de comprendre pourquoi ces cartes sont différentes d'une période à l'autre. Donc la géographie des accords commerciaux est dynamique. Les raisons pour lesquelles les pays signent ou ne signent pas entre eux changent au cours du temps. Et je vais être amené à vous parler tout à l'heure, à plusieurs reprises, sans surprise pour vous, de la Chine. Et donc, on va essayer de comprendre avec qui la Chine a intérêt à signer à telle époque ou à telle époque et pourquoi. Bien, maintenant, on va essayer de progresser un petit peu. Et je vais vous demander de regarder simplement les barres en bleu foncé pour l'instant. J'expliquerai pourquoi il y a deux barres ensuite. Donc, les barres bleu foncé. Donc ça, c'est depuis 1995. On a vu que ça accélérait dans les années 90, donc pour simplifier les choses, je regarde à partir de 1995. C'est à partir de 1995, donc la proportion de pays, quand vous voyez 0,1, c'est 10%, d'accord ? C'est la proportion de pays, enfin de paires de pays, pardon, qui ont signé des accords bilatéraux. D'accord ? Donc qu'est-ce que vous voyez ? Cette proportion, elle augmente de façon continuelle. L'échantillon dont je dispose, c'est le N, c'est la taille de mon échantillon. Le nombre de pays, c'est 159. Vous allez dire, mais attendez, il y a beaucoup plus que 159 pays à l'ONU. Comment se fait-il que vous considériez uniquement ces 159 ? En réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de base de données au-delà de 159, qui est d'ailleurs à peu près le nombre de pays à l'OMC. Donc il en manque un ou deux qui sont des petites îles, et puis il y en a un ou deux qui s'ajoutent, etc. Mais il n'y a pas de base de données complète au-delà de ce qui peut être observé par l'OMC, puisque c'est l'OMC qui collecte l'information sur qui signe avec qui. Et pourquoi l'OMC collecte les informations sur qui signe avec qui ? Parce que quand vous signez un accord qui déroge aux règles de l'OMC, il faut envoyer une lettre à Genève informant l'OMC que vous allez déroger à ces règles pour signer avec tel pays et réduire vos droits de douane ou supprimer vos droits de douane sur une part conséquente de votre commerce. Donc vous envoyez un courrier. Et donc l'OMC fait simplement la somme des courriers qui sont reçus et donc c'est le stock que vous voyez augmenter en proportion au cours du temps. Alors ça sert à quoi ? L'OMC regarde ce que vous avez fait quand vous avez signé, quelles sont toutes les clauses qui sont dans cet accord. Tout est détaillé, tout est étudié. Mais jamais, au grand jamais, l'OMC n'a jamais poursuivi une paire de pays pour avoir mis des clauses qui n'allaient pas. Donc c'est un contrôle, mais ce contrôle est assez bénévolent au sens où jamais un accord a été attaqué par l'OMC, qui pourrait le faire de son propre chef, pour non-respect de telle ou telle règle. Donc l'OMC, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et le GATT avant elle, voit d'un assez bon œil ce régionalisme. Et donc, il y a des expressions en anglais qui sont utilisées et usées dans les conférences qui consistent à dire est-ce que c'est une marche vers le multilatéralisme ou est-ce que c'est un bloc sur la route qui mène au multilatéralisme. Et la conclusion des heures de débat à Genève, c'est de dire que le régionalisme est évidemment une marche qui nous amène par consolidation vers le multilatéralisme. Donc, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'OMC ne voit pas forcément ça d'un mauvais œil. Donc ça, c'est la proportion dans l'échantillon de 159 pays. Et ensuite, le bleu foncé, le bleu clair, pardon, donc, qui est écrit ici, donc échantillon pour la gravité, c'est l'ensemble de pays sur lesquels on a les données économiques qui sont nécessaires pour faire un certain nombre de calculs, dont je vous donnerai les résultats tout à l'heure. Et donc, ça va réduire notre échantillon, mais on est obligé de fonctionner comme ça. Juste d'un mot pour que vous compreniez quelle est la différence entre l'échantillon de 159 et l'échantillon de 111. Quand je suis dans l'échantillon de 111, je peux dire combien chaque pays commerce avec lui-même. Je peux dire combien la France exporte vers la France, combien l'Allemagne exporte vers la France. C'est une idée un peu étrange peut-être, mais c'est très important. Parce que la bonne comparaison, ce n'est pas de savoir si la France exporte beaucoup avec l'Allemagne ou beaucoup avec l'Italie, etc. C'est de savoir si la France exporte beaucoup avec l'Allemagne par rapport à ce que la France exporte vers la France. Donc on va comparer le commerce entre Paris et Clermont-Ferrand avec le commerce entre Strasbourg et Aix-la-Chapelle, par exemple. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, la partie légale est derrière nous. On va commencer à faire un petit peu d'économie. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est de prédire. Vous savez que les économistes sont souvent moqués par leur capacité à prédire le futur. Donc, en dépit de cette critique habituelle et facile, nous allons essayer de prédire les accords. Donc, nous allons essayer de prédire qui signe avec qui. Donc, la question, c'est est-ce que je vais signer avec Jean-Marc ? D'accord ? Donc, comment faire ? Eh bien, il se trouve que les économistes n'ont pas tout inventé. Les physiciens avaient travaillé un peu avant eux et ont inventé le principe de gravitation qui s'applique au monde qui nous entoure. Eh bien, ce principe de gravitation que vous connaissez, les masses, ce principe de gravitation s'applique aussi en économie. Et donc, essayons de regarder cette régularité statistique qui a été prouvée depuis très longtemps et que maintenant nous savons modéliser. Donc, essayons de voir un flux, je vais l'appeler X, ça peut être des biens, ça peut être des services, ça peut être des personnes, ça marche aussi pour les migrations. Donc, un flux entre A et B. A, c'est un pays, B, c'est un autre pays. Donc, comment je peux expliquer l'intensité du flux entre A et B, entre le pays A et le pays B ? Eh bien, comme en physique, il suffit, entre guillemets, que je connaisse la masse de A, la masse économique de A, la masse économique de B et la friction entre A et B. La friction, c'est ce qu'on a appelé les coûts au commerce. Donc il me suffit de connaître la masse économique de A, la masse économique de B et la friction, les coûts au commerce, entre A et B. Bon, comme rien n'est jamais simple, il y a une petite constante, on va dire une constante gravitationnelle qui vient interférer dans cette équation, qui est juste la taille de l'économie mondiale. Donc ça, ce n'est pas très, très compliqué. Et ce qui est assez vexant, c'est que ce que je viens d'expliquer en une minute, c'est en réalité une façon simple d'expliquer à peu près tous les modèles très, très compliqués de commerce international qui circulent aujourd'hui sur la place. Vous prenez n'importe quel modèle de commerce international très, très connu, écrit par un prix Nobel, etc. La dernière équation, si vous mettez les choses vraiment jusqu'à leur terme, jusqu'à la façon la plus simple de l'écrire, bah, ce modèle vous dit juste que le commerce entre A et B dépend de la masse de A, de la masse de B, des coûts au commerce entre A et B et d'une constante gravitationnelle qui est la taille de l'économie mondiale. Voilà. Alors, quels sont les coûts au commerce ? On a dit tout à l'heure les coûts de transport pour le camion. Donc, ça, ce n'est pas très facile à observer. Donc, on dit la distance. Ça va le faire. Donc, on va considérer que la distance en kilomètres ou en miles, c'est un proxy du coût au commerce. Les droits de douane. Et puis, tous les règlements. Et on sait bien que les entreprises souffrent beaucoup quand elles veulent exporter, surtout des différences réglementaires, encore beaucoup plus que des droits de douane. ça leur coûte encore beaucoup plus cher. La langue. Qu'est-ce que j'entends par différence réglementaire? Je vais juste prendre un exemple qui va vous parler beaucoup. Quand vous allez en Angleterre, vous avez peut-être remarqué que vous risquez de vous faire écraser en traversant la rue. Donc, la raison, je vous l'explique si vous ne le savez pas, c'est parce que les voitures roulent du mauvais côté en Angleterre. Et donc, quand vous voulez exporter des voitures en Angleterre, il faut mettre le volant du mauvais côté. En réalité, nos amis anglais savent qu'il faut mettre le volant du beau côté de leur point de vue. Mais pour nous, pour l'industriel, c'est mettre de mauvais côté. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, Renault, quand Renault avait construit la première Twingo, avait refusé d'exporter des Twingo en Angleterre parce que c'était très compliqué, ça coûtait très cher de mettre le volant de l'autre côté. Bon, d'autres compagnies ont trouvé la solution pour changer le volant de côté, mais Renault n'avait pas trouvé, donc ça coûtait très très cher. Donc ils ne vendaient pas de Twingo en Angleterre. Voilà. Et puis la langue. Donc si vous regardez où exportent d'abord les entreprises françaises, c'est en Belgique. Et si vous regardez où exportent d'abord en Belgique les entreprises françaises, c'est à Bruxelles. Pourquoi ? Chacun sait que c'est parce que les Français sont doués en langue. Donc, les différences de langue sont aussi un coût au commerce. Alors, tout ça est fort simple, en réalité, et assez intuitif. Ce qui l'est moins, c'est que nous ne devons pas raisonner en termes absolus. Je ne dois pas raisonner sur le coût au commerce entre la France et les États-Unis dans l'absolu, mais je dois raisonner en relatif. C'est-à-dire, je dois toujours comparer le coût au commerce entre deux pays avec toutes les opportunités alternatives, tous les autres pays avec lesquels ils pourraient commercer. Et donc, c'est ce relatif qui est très, très important. Voilà. Et donc, ce relatif, il s'exprime de deux façons. Si vous prenez les Français, les exportateurs français, vous vous interrogez sur l'ensemble des marchés sur lesquels ils peuvent exporter et quels sont l'ensemble des coûts au commerce sur chacun de ces marchés. Et si vous prenez le point de vue des importateurs, ce qui compte, c'est le degré de concurrence sur chacun de ces marchés. Les États-Unis, c'est un marché qui est très, très attractif parce qu'il y a beaucoup de consommateurs, très riches, et donc vous avez envie d'exporter aux États-Unis. Mais peut-être que vous n'allez pas le faire parce que aux États-Unis, le degré de concurrence est terrible. Et quand vous allez vous retrouver pauvre exportateur français aux États-Unis, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on peut très simplement, avec tout ça, prédire l'occurrence d'un accord entre A et B. Alors, comme je suis économiste, voici la première carte que je vais tracer. Donc, ce sont des pays. Donc, A et B sont deux pays, C, D, E aussi, et la taille du cercle est proportionnelle à la taille économique des pays. La taille économique des pays, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le revenu des pays, si vous voulez. Voilà, c'est la taille économique des pays. Donc, fort de ça, A, B, etc. sont des pays, la taille du cercle représente la taille des pays, et la distance entre les cercles représente les coûts de transport, les coûts au commerce, la distance géographique plus tout le reste. Donc avec quel pays A aurait-il envie de signer, si vous croyez à la théorie de gravité, de la gravité ? C'est évidemment avec le pays B. Donc c'est le premier pays avec lequel A a envie de signer. Maintenant, la question subsidiaire, qui est beaucoup plus difficile, c'est quel est le deuxième pays avec lequel A aurait envie de signer ? Parce que regardez, C est tout près. Donc on aurait bien envie de signer avec C. Mais regardez cette grande masse économique E. Et donc, il va y avoir un choix à faire. Et donc, tout va dépendre de combien les coûts de commerce font baisser votre commerce. Est-ce que c'est vraiment si difficile de parcourir cette distance pour arriver à eux ? Peut-être que oui, peut-être que non. Et dans cette distance, il y a la distance géographique, il y a les droits de douane, et puis il y a les différences réglementaires, il y a la langue. Tout ça, c'est ce qui mesure la distance entre A et E. Et donc là, la réponse, je ne peux pas vous la donner. Peut-être que c'est plus facile de commercer avec E, peut-être que c'est plus facile de commercer avec C. Et donc, je vais essayer de construire donc, un modèle statistique qui va me dire avec qui A va signer. Et si A signe avec B, ben, la paire AB va prendre la valeur 1, ça veut dire j'ai signé. Et si A ne signe pas avec C, la paire prendra la valeur 0, ça veut dire que je n'aurai pas signé. Donc, mon travail en tant qu'économiste n'est pas très compliqué. Je cherche juste à prévoir si c'est 1 ou 0. Ça va. Alors, pourquoi la chose s'est accélérée au cours du temps ? Eh bien, la raison, vous l'avez dans votre poche, en réalité. Je vais parler de l'iPhone, bien sûr. Donc, c'est un produit qui, comme vous le savez, est fabriqué avec beaucoup d'étapes. Les étapes sont réalisées dans beaucoup de pays différents. Et donc, votre iPhone ou votre Samsung, etc., votre smartphone, en tout cas, comporte des composants et des procédés, des phases d'assemblage qui ont été réalisées dans beaucoup de pays du monde. La batterie va être japonaise, l'écran va être coréen, le gyroscope qui fait que l'image se retourne quand vous tournez le téléphone est français, etc., etc. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses comme ça qui sont dans ce téléphone. Et donc quand on regarde ce qu'il y a dans ce téléphone, ce qui peut arriver si vous le faites tomber par terre, eh bien vous regardez les made in et au fond c'est fabriqué dans le monde. Il n'y a plus de made in. On a l'impression que c'est un produit californien, si c'est un iPhone, ou un produit coréen, si c'est un Samsung. Mais en réalité, ça n'est rien de tout ça. C'est un produit qui vient du monde entier. Et donc, ces chaînes de valeur globale, puisque c'est le nom qu'on donne à cette façon d'organiser les processus industriels, sont fractionnées et ont été fractionnées beaucoup au cours des années 90 et au cours des années 2000. Mais au fond, est-ce que ça n'est pas ce fractionnement lui-même qui a rendu nécessaire la réduction des coûts au commerce entre les pays qui sont impliqués dans ces chaînes? Si les Européens et les Coréens travaillent ensemble dans une chaîne de valeur, eh bien, il va y avoir une pression des entreprises coréennes auprès du gouvernement coréen et des entreprises européennes auprès de la Commission européenne pour signer un accord qui réduise les droits de douane, donc qui réduise les coûts au commerce pour faciliter l'organisation globale de cette chaîne de valeur. Donc, c'est la question qu'on va étudier ici. Donc, on va intégrer cette dimension dans notre analyse. Et donc, comme il ne faut jamais perdre l'occasion de se faire un peu de publicité, sinon qui vous en ferait? Donc, c'est un travail que je suis en train de conduire avec un co-auteur italien qui s'appelle Gianluca Santoni. Voilà. Alors, les résultats chiffrés que je vais vous montrer, en particulier les cartes, sont tirés de ce travail. Alors, là, ce que je fais, c'est une autre façon de faire de la géographie, c'est-à-dire au lieu d'avoir 3 ou 4 pays comme tout à l'heure, je mets beaucoup de pays. Et en réalité, je mets tous les pays qui vont être liés entre eux par des accords commerciaux. Alors, ce qui n'apparaît pas sur le transparent ici à l'écran de la place où je suis, mais peut-être le voyez-vous, c'est que tous les pays qui sont liés, tous les pays qui sont ici sont liés entre eux par des accords. Malheureusement, ça n'apparaît pas. Donc, la distance entre les pays représente la distance effective en termes de coûts au commerce, et les pays sont groupés en termes de clusters qui ont signé des accords entre eux. Donc, les pays en jaune, c'est l'Union européenne. Vous avez un premier cluster, c'est le gros pâté là, avec les pays en jaune, c'est tous les pays de l'Union européenne, nous sommes en 1995, qui ont signé avec leurs voisins. Et c'est des pays qui travaillent entre eux, en fait, les accords sont entre eux. Les États-Unis avec le Mexique, le Canada dans le bas. Vous avez une autre île qui est la Russie et les pays amis, disons. Le Brésil, avec un certain nombre de pays en Amérique latine, ça c'est le Mercosur. Vous avez des choses en Asie, etc. Mais vous avez des îles comme ça qui travaillent entre elles, on est en 1995, et qui ne travaillent pas encore de façon globale. Donc si les flèches apparaissaient sur l'écran, vous verriez que les États-Unis ne sont pas liés avec l'Europe. Ils ne sont liés que de façon indirecte avec l'Europe à travers Israël. Mais les Européens n'ont pas de relation de libre-échange directe avec les États-Unis. Donc c'est vraiment des îles qui sont séparées entre elles par des coûts au commerce très très importants en 1995. Et regardez maintenant comment cette géographie a évolué en 2015. Eh bien, si à nouveau on voyait les flèches, eh bien, on verrait que il y a beaucoup, beaucoup plus de flèches d'une part et que donc cette espèce d'ensemble d'îlots se sont rapprochés. Et vous voyez un acteur très important apparaître, c'est la Chine, abréviation CHN, qui est à la fois un grand pays et qui s'est rapproché beaucoup des autres en matière de coûts au commerce. Donc c'est ça qu'on va essayer d'utiliser. Donc je vais prédire la probabilité ou non de signer pour une certaine période, pour mon échantillon de départ. Et donc, la question, c'est quel est le degré de probabilité qui est intéressant? Donc, ça, c'est une question pour Jean-Marc Bonisseau. Et donc, Jean-Marc sait que ça n'est pas 50%. Ça ne peut pas être, parce que 50%, ça serait une pièce de monnaie. Vous la lancez pendant un nombre infini de fois, si vous avez un peu de patience. Normalement, elle tombe autant de fois d'un côté que de l'autre. Donc, l'espérance qu'elle tombe d'un côté ou de l'autre, c'est moitié-moitié. Donc ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On essaye de trouver le vrai seuil qui va permettre de bien prédire le fait de signer ou qui va prédire aussi le fait de ne pas signer. Et ça, ce n'est pas 50%. Et dans cette prédiction, on intègre les chaînes de valeur. Voilà. Et donc, on va comparer les accords que l'on prédit, donc qui devraient être signés, avec les accords qui ont été en fait signés. Alors, je vais montrer juste d'abord, excusez-moi, voilà, la logique, et je vais revenir en arrière ensuite. Donc, prenons nos deux pays A et B. Donc, c'est ce qui est écrit tout de suite à gauche. C'est la paire A-B. Et donc, avec ce modèle statistique, je vais prédire soit qu'il est vrai, soit que c'est faux, que ces pays, c'est pas tellement du français, mais c'est de l'économie, que ces pays signent entre eux. D'accord ? Donc, oui, je signe, ou non, je signe pas. D'accord ? Donc, c'est vrai ou c'est faux, le fait de signer. Donc ça, c'est ce qu'on prédit. Si je prédis que les pays signent, donc vrai, et qu'ils signent pour de bon, ça, c'est pas très intéressant. Maintenant, si je prédis que les pays vont signer et, en fait, qu'ils n'ont pas signé, ça devient beaucoup plus intéressant. Comment se fait-il que des pays qui auraient dû signer entre eux ne l'ont pas fait? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les faux positifs. Donc c'est des pays qui auraient dû signer et ils n'ont pas signé. Maintenant, on peut retourner l'argumentaire, vous avez compris. On peut prédire que les pays n'auraient pas dû signer. S'ils n'ont pas signé, ce n'est pas très intéressant. Mais s'ils n'auraient pas dû signer et qu'ils ont signé, là, ça devient intéressant. Comment se fait-il que des pays qui, pour des raisons économiques, n'auraient pas dû signer, ont signé? Vous allez me dire, c'est pour des raisons politiques. D'accord. Mais on va essayer de creuser un petit peu. Et on va creuser tellement qu'on va dire maintenant, qu'est-ce qui se passerait si les choses qui n'étaient pas signées l'étaient? Et si ce qui n'aurait pas dû être signé ne l'était pas? Ça, c'est typiquement le raisonnement d'un économiste, voyez, qui parle de géographie. Voilà. Alors, pour comprendre ça, on va regarder quels sont les partenaires naturels de la Chine. Donc, si je prédis, donc mon test statistique est très, très puissant, hein, mais donc je prédis quels sont les partenaires de la Chine naturels, c'est-à-dire les pays avec lesquels elle devrait signer, d'accord ? Dans la période 95-2001 et donc depuis la période 2008. Il y a une période intermédiaire, mais on ne peut pas avoir trop de résultats. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que cette géographie naturelle des accords est très différente. Si vous regardez la période 95-2001, même si la carte est un peu petite, vous voyez qu'en réalité, la Chine aurait dû signer avec l'Inde, en fait, avec toute l'Asie. Avec la Russie, et le seul pays avec lequel la Chine n'aurait pas dû signer, probablement, qui est en blanc ici, vous ne le voyez pas trop, c'est le Myanmar, la Birmanie. D'accord. Mais pour le reste, la Chine aurait dû signer avec tout le monde. 95-2001. Si vous regardez 2008-2014, c'est complètement différent. 2008-2014, les pays avec lesquels la Chine devrait signer, c'est d'abord les pays européens. Donc, si je vais raconter ça à Bruxelles, on va me jeter des pierres. Mais ce que nous dit l'analyse économique, c'est ça. Les fondamentaux économiques, c'est que la Chine devrait signer avec le Mexique, avec l'Europe, avec la Mongolie, avec le Japon, et avec Israël. Donc, ça, c'est la logique économique. Et on essaye de comprendre ce qui fait que c'est totalement différent aujourd'hui de ce que c'était il y a quelques années. Comment se fait-il que la géographie naturelle de la Chine ait changé tellement? Eh bien, c'est expliqué ici. La carte du haut reproduit très exactement la précédente. C'est la même que celle du bas. D'accord? C'est 2008-14. Et maintenant, je vais retracer la même carte et prédire la même chose en enlevant de la prédiction l'engagement de la Chine dans les chaînes de valeur dont j'ai parlé tout à l'heure, l'iPhone. Si vous enlevez de la prédiction cet élément qui vous permet de prédire les accords, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, s'il n'y avait pas eu donc cette ce fractionnement généralisé des chaînes de valeur et donc la Chine qui est donc l'usine du monde, hein, comme on a souvent l'habitude de le dire journalistiquement, eh bien on aurait une carte très très différente, c'est la carte du bas. Et en particulier, la Chine n'aurait aucun intérêt à signer avec l'Europe. Donc le point important qui fait qu'aujourd'hui, le partenaire naturel de la Chine, ça devrait être l'Europe, c'est l'engagement dans les chaînes de valeur. C'est que la Chine utilise beaucoup de composants allemands, beaucoup de composants italiens, beaucoup de composants français, et que les Allemands, les Italiens, les Français, les Anglais utilisent aussi beaucoup de composants chinois. Donc la géographie a complètement changé parce que les chaînes de valeur ont transformé la géographie. Alors, on va faire ce qu'on a promis. Hein. On va signer donc les accords qui n'ont pas été, mais qui auraient dû l'être. Et on va sortir des accords qui n'auraient pas dû être signés, mais qui l'ont été. Alors, je vois tout de suite une question poindre et j'ai mis la réponse en bas. Et le Brexit, est-ce que c'était un bon accord? Est-ce que c'était un accord naturel? Oui. La géographie nous dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut changer en Angleterre, mais pas le fait que l'Europe est toute proche, l'Europe continentale. Donc le partenaire naturel des Anglais, c'est évidemment l'Europe continentale. On peut tourner le problème dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, il y a la langue anglaise qui pourrait les rapprocher des États-Unis, mais les États-Unis, c'est quand même très loin, il y a des droits de douane, etc. Donc le partenaire naturel du Royaume-Uni, c'est évidemment l'Europe. Et le Brexit ne changera rien à ça. C'est d'ailleurs toute la difficulté du sujet. De la même façon que le Mexique est le partenaire naturel des États-Unis. Donald Trump peut changer beaucoup de choses. Il peut mettre un mur, etc. Mais ça ne change rien au fait que le Mexique ne bougera pas d'où il est. D'accord. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une période de référence. On va calculer la géographie optimale ou naturelle au sens de ce que j'ai dit. La façon de voir la géographie pour les économistes. Et puis, on va comparer les accords qui sont signés avec les accords donc, qui sont effectifs. Et on va changer tout ça. D'accord ? Voilà. Alors, petit détail dans lequel on pourra revenir dans les questions. Je considère dans une variante que les pays européens signent à la majorité simple, ce qui est une horreur, puisqu'on pourrait y revenir dans le jeu des questions. Mais en Europe, on ne signe pas ce genre de choses à la majorité simple, mais à la majorité qualifiée. C'était un peu compliqué à modéliser, et comme j'avais assez peu de courage, donc je ne l'ai pas fait, je pourrais revenir sur ce point dans la discussion. Mais ça ne change pas grand-chose de toute façon. Donc voilà comment les choses se présentent. Regardez tout d'abord la colonne qui est intitulée, enfin les trois colonnes qui sont intitulées « faux négatifs ». Les faux négatifs, c'est quoi ? C'est abandonner les accords qui n'auraient pas dû être signés. Donc je prends tous les accords dans le monde qui n'auraient pas dû être signés et qui ont été signés non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons politiques, vous m'avez suivi. Et donc je vais défaire tous ces accords qui ont été signés pour des raisons politiques, faire tourner mon modèle de commerce international et voir ce qui se passe en termes de changement des flux commerciaux et en termes de richesse de ces pays. Donc la colonne numéro 1, c'est les pays qui ne sont pas concernés par ce qu'on appelle le traitement, c'est-à-dire par le fait que c'est comme dans médecine. Hein, donc le traitement ici, c'est de signer ou de pas signer, d'accord ? C'est signer ce qui n'a pas été signé ou défaire ce qui a été fait. Donc il y a des pays qui regardent. Donc dans le Brexit, par exemple, les États-Unis, ils regardent. Donc si on parlait du Brexit, les États-Unis, ils regarderaient, ils seraient dans la colonne 0. Mais les Anglais, ils seraient donc dans la colonne 1. D'accord ? Donc, c'est les pays traités qui sont dans la colonne 1. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez que si vous défaites les accords qui ont déjà été signés, ça change les flux de commerce, mais regardez ce qui se passe sur la richesse. Ça appauvrit, donc c'est les colonnes delta PIB. PIB, c'est la richesse. Hein ? Donc, delta PIB en 2001, delta PIB en 2007, delta PIB en 2013. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez les chiffres moins 0,14%, moins 0,13%, moins 0,19%. Ça veut dire que vous appauvrissez les pays qui n'auraient pas dû signer, qui ont signé, mais ayant signé de façon endogène, naturelle, ils se sont mis à échanger plus entre eux. Et maintenant, si vous défaites ce qui était fait, mais qui n'aurait pas dû être fait, vous allez perdre. Et donc, ça veut dire que leur PIB serait chaque année 0,2 points en dessous de sa trajectoire de référence. Ce qui fait beaucoup, quand même. Quand vous faites 2% de croissance, c'est 10% de votre croissance qui disparaît. Donc si vous abandonniez les accords qui ont été signés pour des raisons politiques et pas pour des raisons économiques, ça ne serait pas bon pour les pays concernés. Et la raison est que ces pays qui avaient signé pour des raisons politiques, ben finalement, de proche en proche, sont devenus plus intégrés économiquement. Et maintenant, défaire tout ça, ça serait très, très coûteux. Et pour les pays qui sont dans la colonne de gauche des faux négatifs dans la colonne 1, eh bien, eux, c'est ceux qui regardent. Et pourquoi sont-ils affectés par quelque chose qui ne les concerne pas? Eh bien, c'est la question que j'évoquais tout à l'heure du relatif. Parce que quand A signe avec B, d'une certaine façon, s'il ne signe pas avec C, le fait que A et B signent entre eux, ça augmente les coûts de commerce entre A et B et C. Ça n'augmente pas les coûts de commerce absolus entre A et B, mais comme les coûts de commerce entre A et B ont baissé, les coûts de commerce relatifs entre A et C et B et C ont augmenté. Et donc, c'est en ce sens que les pays qui ne sont pas traités sont concernés. D'accord ? Voilà. Maintenant, si on regarde la Chine et qu'on signe tous les accords que la Chine aurait dû signer aux différentes périodes, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On voit une augmentation des flux de commerce chinois très, très importante. Vous voyez qu'on est autour de 10-20%. Et on voit qu'en matière de richesse pour la Chine, on gagne entre... la période 2002-2007 est un peu particulière, mais on gagne quelque chose comme 4% de PIB, ce qui est absolument gigantesque. Et donc, par contre, on fait perdre un petit peu aux pays qui sont en dehors, c'est-à-dire aux pays qui ne signeraient pas avec la Chine. Donc toujours cette idée de relatif. Un dernier exercice dans la minute qui me reste, c'est ça. Donc ça, vous en avez entendu parler forcément, si vous vous intéressez à ces sujets, pardon. C'est l'accord que la Chine est en train d'essayer de négocier avec un certain nombre de pays. Donc il y a deux choses dont on entend parler tous les jours dans les journaux. C'est l'ARCEP, c'est ce dont je vais vous parler, et la route de la soie, ce qui est quelque chose de différent. La route de la soie, c'est plus des choses d'infrastructure. Ici, l'ARCEP, c'est plus quelque chose qui va ressembler à un accord régional. Donc ça, c'est tous les pays avec lesquels la Chine négocie. Et donc, ce qu'on va calculer maintenant, c'est quid de cette situation où demain la Chine signe l'ARCEP. Est-ce que ça va être source de très grands bénéfices pour la Chine et pour les pays qui signent ou pas tellement? Si vous m'avez bien écouté, en réalité, probablement pas tellement, puisque maintenant la Chine est un acteur global. Ce n'est pas avec l'Australie que la Chine devrait signer, c'est avec l'Europe. Donc on va essayer de calculer ça pour nous prouver que nous sommes de bons économistes. Donc, c'est ce que nous faisons. Et donc, vous avez le résultat dans la colonne de droite. On va regarder simplement ce qui se passe pour le pays traité, qui est la Chine. La colonne précédente, qui est la colonne 2, c'est pour tous les autres pays traités qui ne sont pas la Chine, comme par exemple l'Australie. Là, la Chine est traitée. Et regardez, donc, si la Chine avait signé cet accord en 2001, eh bien, elle aurait gagné 16% de commerce. Si la Chine avait signé cet accord en 2007, elle n'aurait plus gagné que 12% de commerce. Et maintenant, si la Chine signe aujourd'hui, enfin c'est 2013, elle ne gagnerait plus que 5% de commerce. Donc vous voyez que l'intérêt pour la Chine de signer cet accord régional, parce que là on respecte bien la vraie géographie, diminue au cours du temps et le gain en termes de PIB passe de 3,58% à 1,92%. Donc le gain existe. Mais il diminue chaque année, tout simplement parce que la Chine est devenue un acteur global et la Chine n'a plus tellement intérêt maintenant à signer pour des raisons économiques dans sa région. Et pourquoi la Chine, alors, nos amis chinois sont malins, pourquoi nos amis chinois continuent-ils à négocier un accord qui est de moins en moins intéressant sur le plan économique? Il se pourrait qu'ils réfléchissent à une dimension politique de cet accord. Je vous remercie, c'est ce que les économistes pensent de la géographie.